Fin de Jeanne la Reine. Renaud des Baux dirigea ses galères sur Marseille, où il espérait faire couronner son fils comte de Provence grâce à son étrange mariage avec Marie de Duras. Mais cette lâche trahison ne devait pas rester impunie. Le vent se leva avec fureur et le repoussa vers Gaète, où la reine et son mari venaient d'arriver à peine. Renaud commanda à ses matelots de se tenir au large, menaçant de jeter au flot quiconque oserait transgresser ses ordres. L'équipage répondit d'abord par des murmures. Tant bientôt des cris de mort s'élevèrent de toutes parts, et l'amiral, se voyant perdu, passa des menaces aux prières. Mais la princesse, qui avait recouvré ses sens au premier éclat de tonnerre, se traînant sur le pont, criait au secours « À mort, Louis, à moi, mes barons, mort aux misérables qui m'ont lâchement outragé !» Louis de Tarente s'élança dans une chaloupe, suivi d'une dizaine de ses plus braves chevaliers, et faisant force de rame, atteignit la galère. Alors Marie acheva son récit d'un seul trait, et se tournant vers l'amiral comme pour le défier de se défendre, la câbla d'un regard foudroyant. « Misérable !» s'écria le roi en se jetant sur le traître, et le perça d'un coup d'épée. Puis il fit charger de chaînes son fils, et l'indigne ministre qui avait été complice de l'odieuse violence que l'amiral venait d'expirer par sa mort, et prenant dans son bateau la princesse et ses filles, il rentra dans le port. Cependant, les Hongrois, ayant forcé une des portes de Naples, défilaient triomphalement vers le Château-Neuf. Mais au moment où ils traversaient la place delle Correggie, les Napolitains s'aperçurent que les chevaux étaient si faibles et les cavaliers si exténués par les fatigues soutenues au siège de Versailles qu'un souffle aurait suffi pour disperser cette armée de fantômes. Alors, passant tout à coup de la terreur à l'audace, le peuple se rua sur les vainqueurs et les refoula hors des murs qu'ils venaient de franchir. Cette brusque réaction populaire dompta l'orgueil du roi d'Hongrie et le rendit plus docile au conseil de Clément VI, qui crut enfin devoir intervenir. Une trêve fut d'abord conclue depuis le mois de février 1350 jusqu'au commencement d'avril 1351. Et l'année suivante, la trêve fut changée en paix définitive, moyennant la somme de 300 000 florins que Jeanne paya au roi de Hongrie pour les frais de la guerre. Après le départ des Hongrois, un légat fut envoyé par le pape pour couronner Jeanne et Louis de Tarente, et on choisit pour cette solennité le 25 mai, jour de la Pentecôte. Tous les historiens du temps parlent avec enthousiasme de cette fête magnifique dont les détails ont été rendus éternels par le pinceau de Giotto dans les fresques de l'église qui prit dans cette occasion le nom de l'Incoronata. On prononça une amnistie générale pour tous ceux qui, dans les guerres précédentes, avaient combattu dans l'un ou dans l'autre parti, et les cris d'allégresse accueillirent le roi et la reine qui chevauchaient solennellement sous le dais, suivis par tous les barons du royaume. Mais la joie de ce jour fut troublée par un accident qui parut d'un augure sinistre à la populace superstitieuse. Louis de Tarente, monté sur un cheval richement caparaçonné, venait de passer la Porta Petruccia lorsque des dames qui regardaient le cortège du haut de leurs fenêtres jetèrent sur le roi une si grande quantité de fleurs que le cheval effrayé se cabra et rompit le frein. Lui, ne pouvant retenir son balfroid, sauta légèrement à terre, mais la couronne tomba en même temps de sa tête et se brisa en trois morceaux. Le jour même mourut la fille unique de Louis et de Jeanne. Cependant, le roi, ne voulant pas que cette brillante cérémonie fût attristée par des signes de deuil, fit continuer pendant 3 jours les joutes et les tournois, et en mémoire de son couronnement, institua l'ordre des chevaliers du nœud. Mais, à dater de ce jour, signalé par un triste présage, sa vie ne devait plus être qu'une longue suite de déceptions. Après avoir soutenu des guerres dans la Sicile et dans la Pouille, et dompté la rébellion de Louis de Duras, qui finit ses jours dans le château de l'œuf, Louis de Tarente, usé par les plaisirs, miné par une lente maladie, accablé de chagrins domestiques, succomba à une fièvre aiguë le 5 juin 1362, à l'âge de 42 ans. Et on n'avait pas encore descendu son cadavre dans le royal tombeau de Saint-Dominique, que déjà plusieurs prétendants se disputaient la main de la reine. Ce fut l'infant de Majorque, ce beau jeune homme que nous avons déjà nommé, qui l'emporta sur tous ses rivaux, y compris le fils du roi de France. James d'Aragon avait une de ces figures douces et mélancoliques auxquelles une femme ne sait pas résister. De grandes infortunes, noblement supportées, avaient jeté comme un crêpe funèbre sur sa jeunesse. Il avait passé 13 ans enfermé dans une cage de verre. Délivré de cette affreuse prison à l'aide d'une fausse clé, il avait erré de cour en cour pour recouvrer ses états. Et l'on dit même que, réduit à un extrême degré de misère, il avait dû mendier son pain. La beauté du jeune étranger, le récit de ses aventures avait frappé Jeanne et Marie à la cour d'Avignon. Marie, surtout, avait conçu pour l'enfant une passion d'autant plus violente qu'elle avait fait plus d'efforts pour la concentrer dans son cœur. Dès que James d'Aragon arriva à Naples, la malheureuse princesse, qu'on avait mariée le poignard sur la gorge, voulut racheter sa liberté au prix d'un crime. Suivie de 4 armées, elle entra dans la prison où Robert Desbeaux n'avait cessé d'expier une faute qui était bien plus celle de son père que la sienne, et Marie s'arrêta devant le prisonnier, les bras croisés, les joues livides, les lèvres tremblantes. L'entrevue fut terrible. Cette fois, c'était la princesse qui menaçait, c'était le jeune homme qui demandait grâce. Marie demeura sourde à ses prières, et la tête du malheureux roula sanglante à ses pieds, tandis que les bourreaux jetaient le corps à la mer. Mais Dieu ne laissa pas ce meurtre impuni. James préféra la reine à sa sœur, et la veuve de Duras ne recueillit de son crime que le mépris de l'homme qu'elle aimait et des remords cuisants qui la menèrent, jeune encore, à la tombe. Jeanne se maria successivement avec James d'Aragon, fils du roi de Majorque, et avec Otto de Brunswick, de l'impériale famille de Saxe. Nous traverserons rapidement ces années, pressés que nous sommes d'arriver au dénouement de cette histoire de crime et d'expiation. James, éloigné de sa femme, continuant son existence orageuse, après avoir longtemps lutté en Espagne contre Pierre le Cruel, qui avait usurpé son royaume, mourut près de Navarre vers la fin de l'année 1375. Quant à Othon, ne pouvant pas se soustraire à la vengeance divine qui pesait sur la cour de Naples, il partagea courageusement jusqu'au bout la destinée de la reine. Se voyant privé d'héritier légitime, Jeanne avait adopté son neveu Charles de la Paix, comme il fut appelé par la suite à cause de la paix de Trévise. Ce jeune homme était fils de Louis Duras, qui, après s'être révolté contre Louis de Tarente, avait péri misérablement dans la prison du château de l'œuf. L'enfant aurait subi également le sort de son père, mais Jeanne intercéda pour ses jours, le combla de bienfaits, le maria à Marguerite, fille de sa sœur Marie et de son cousin Charles de Duras, égorgé par le roi de Hongrie. De graves dissensions s'élevèrent depuis entre la reine et un de ses anciens sujets, Bartolomeo Prignani, devenu pape sous le nom d'Urbain VI. Irrité de l'opposition de la reine, le pape avait dit un jour, dans un accès de colère, qu'il l'enverrait filer dans un cloître. Jeanne, pour se venger de cette insulte, favorisa ouvertement l'antipape Clément VII et lui offrit un asile dans son propre château, lorsque, poursuivi par les troupes d'Urbain, il s'était réfugié à Fondi. Mais le peuple, s'étant soulevé contre Clément, tua l'archevêque de Naples qui avait contribué à son élection, brisa la croix qu'on portait processionnellement devant l'antipape et lui laissa à peine le temps de monter sur une galère pour se sauver en Provence. Urbain déclara Jeanne déchue de son trône, délia ses sujets du serment de fidélité et donna la couronne de Sicile et de Jérusalem à Charles de la Paix, qui se mit en marche pour Naples à la tête de 8000 Hongrois. La reine, ne pouvant croire à tant d'ingratitude, envoya à la rencontre de son fils adoptif sa femme Marguerite, qu'elle aurait pu garder en otage, et ses deux enfants, Ladislas et Jeanne, qui fut depuis la seconde reine de ce nom. Mais bientôt, l'armée victorieuse arriva devant Naples, et Charles cerna la reine dans son château, oubliant l'ingrat que cette femme lui avait sauvé la vie et l'avait aimée comme une mère. Jeanne supporta pendant ce siège tout ce que les soldats les plus endurcis aux fatigues de la guerre ne pourraient pas endurer. Elle vit tomber autour d'elle ses fidèles, exténués par la faim ou décimés par la fièvre. Après l'avoir privée d'aliments, on lançait tous les jours dans la forteresse des cadavres en putréfaction pour infecter l'air qu'elle respirait. Othon était retenu avec ses troupes à Aversa. Louis d'Anjou, frère du roi de France, qu'elle avait nommé son successeur en déshéritant son neveu, n'arrivait pas à son secours, et les galères provençales que Clément VII avait promis de lui envoyer ne devaient paraître dans le port que lorsque tout serait perdu. Jeanne demanda une trêve de 5 jours, au bout desquels, si Othon n'était pas venu la délivrer, elle promit de rendre la forteresse. Au 5e jour, l'armée d'Othon entra par le côté de Piedigrotta. Le combat fut acharné de part et d'autre, et Jeanne, du haut d'une tour, put suivre la nuée de poussière que soulevait le cheval de son mari à travers le plus épais de la bataille. Longtemps, la victoire demeura incertaine. Enfin, le prince se poussa avec tant de valeur contre l'étendard royal, pressé de rencontrer corps à corps son ennemi, il s'enfonça au centre de l'armée par un choc si violent que, serré de toutes parts, couvert de sueur et de sang, l'épée brisée dans sa main, il fut forcé de se rendre. 1 heure après, Charles écrivait à son oncle le roi de Hongrie que Jeanne était dans son pouvoir et qu'il attendait les ordres de Sa Majesté pour décider du sort de la prisonnière. C'était par une belle matinée de mai. La reine était gardée à vue dans le château d'Aversa. Othon avait obtenu la liberté à la condition de quitter Naples. Louis d'Anjou, ayant enfin réuni une armée de 50 000 hommes, marchait en toute hâte à la conquête du royaume. Aucune de ces nouvelles n'était parvenue à l'oreille de Jeanne, qui vivait depuis quelques jours dans l'isolement le plus complet. Le printemps déployait toute sa pompe dans ces plaines enchantées qui ont mérité le nom de terre heureuse et bénie, Campania Felice. Les orangers couverts de leur neige odorante, les cerisiers lancés aux fruits de rubis, les oliviers aux petites feuilles d'émeraude, le grenadier empanaché de ses rouges clochettes, le mûrier sauvage, le laurier éternel, toute cette végétation puissante et touffue qui n'a pas besoin de la main de l'homme pour fleurir dans ces lieux privilégiés de la nature, formait comme un vaste jardin coupé çà et là par de petits ruisseaux souterrains. On eût dit un Éden oublié dans ce délicieux coin du monde. Jeanne, accoudée sur sa fenêtre, respirait les parfums printaniers et reposait ses yeux voilés de larmes sur un lit de verdure et de fleurs. Une brise légère, embaumée d'âcres senteurs, se jouait sur son front brûlant et répandait sur ses joues moites de fièvre une suave fraîcheur. Des voix mélodieuses et lointaines, des refrains de chansons bien connues, venaient seuls troubler le silence de cette pauvre chambrette, de ce nid solitaire, où s'éteignait, dans les larmes et dans le repentir, l'existence la plus brillante et la plus agitée de ce siècle d'agitation et d'éclat. La reine repassait lentement dans son esprit toute sa vie depuis l'âge de raison. 50 ans de déception et de souffrance. Elle songeait d'abord à son enfance, si heureuse et si douce, à l'aveugle tendresse de son aïeul, aux joies pures et naïves de ce temps d'innocence, aux jeux bruyants de sa petite sœur et de ses grands cousins. Puis elle frissonnait à la première idée de mariage, de contrainte, de liberté perdue, de regrets amers. Elle se souvenait avec horreur des paroles trompeuses qu'on lui murmurait à l'oreille pour jeter dans son jeune cœur le germe de la corruption et du vice qui devait empoisonner sa vie entière. Les brûlants souvenirs de son premier amour, le parjure et l'abandon de Robert de Cabanes, les moments de délire passés comme un rêve dans les bras de Bertrand d'Artois, tout ce drame au tragique dénouement se détachait en traits de feu sur le fond sombre de ses tristes pensées. Puis des cris d'angoisse retentissaient dans son âme comme dans cette nuit terrible et fatale. C'était la voix mourante d'André qui demandait grâce à ses assassins. Un long silence de mort succédait à cette horrible agonie, et la reine voyait passer devant ses yeux des chars infâmes où l'on torturait tous ses complices. Tout le reste n'était que persécution, fuite, exil, remords de l'âme, châtiment du ciel, malédiction de la terre. Il se faisait autour de la reine une affreuse solitude. Mari, amant, parent, ami, tout ce qu'il avait entouré était mort. Tout ce qu'elle avait aimé ou haï au monde n'existait plus. Ses joies, ses douleurs, ses désirs, ses espérances, tout avait disparu pour toujours. La pauvre reine, ne pouvant résister à ces images de désolation, s'arracha violemment à sa terrible rêverie et, s'agenouillant devant un prie-Dieu, pleura amèrement et pria avec ferveur. Elle était belle encore, malgré la pâleur extrême répandue sur ses traits. Les nobles contours de son ovale se dessinaient dans toute leur pureté. Le feu du repentir animait ses beaux yeux noirs d'un éclat surhumain, et l'espoir du pardon faisait errer sur ses lèvres un sourire céleste. Tout à coup, la porte de la chambre où Jeanne priait avec tant de recueillement s'ouvrit avec un bruit sourd. Deux barons hongrois, couverts de leurs armures, se présentèrent à la reine et lui firent signe de la les suivre. Jeanne se leva en silence et obéit à ses hommes. Mais un cri de douleur s'échappa du fond de son âme lorsqu'elle reconnut l'endroit où André et Charles de Duras étaient morts tous les deux d'une mort violente. Cependant, elle recueillit ses forces et demanda d'une voix calme pourquoi on l'avait amené dans ce lieu. Alors un des barons lui montra pour toute réponse un cordon de soie d'or. « Que la justice de Dieu s'accomplisse !» s'écria Jeanne en tombant à genoux. Quelques minutes après, elle avait cessé de souffrir.